nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble pour...
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Michael Cherpeux, vous êtes le président de Messe Francfort France, la filiale française de Messe Francfort. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du modèle économique rhénan et de Ludwig Erhard. L'économiste allemand Ludwig Erhard était né au XIXe siècle et il est mort en 1977. Démocrate chrétien, il a occupé le poste de ministre fédéral de l'économie de la RFA de 1949 à 1963. Et à partir de l'année 1963 et pour 3 ans, il a été le 28e chancelier de l'Allemagne et le 2e de ce qu'on appelait à l'époque la RFA. Quelle est donc l'actualité de Ludwig Erhard? Qui se réclame de sa pensée et de son action aujourd'hui? Quelles sont les perspectives du modèle rhénan qu'il a mis en place aujourd'hui, en 2010, dans le cadre d'une Europe à 27? Michael Cherpeux, bonjour.
Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. En effet, pour parler de Ludwig Erhard et de son modèle économique qui me semble toujours d'une grande actualité, puisque nous vivons aujourd'hui dans un monde où il faudra bien réorganiser probablement la vie commune dans le monde, par ailleurs aussi en Europe, on n'a pas encore abouti. Et il y a plusieurs modèles économiques aujourd'hui qui, me semble, sont proposés, qui quelquefois s'opposent et quelquefois ne se accordent pas très bien en vivant ensemble.
Peut-être, avant d'aborder ces différents modèles, peut-on revenir sur la figure de Ludwig Erhard, un physique à la Churchill, un économiste, un homme politique, ministre, chancelier. C'est une grande figure de l'histoire de l'Allemagne. En France, je ne sais pas si nos auditeurs connaissent bien cette grande figure.
Oui, certainement, Ludwig Erhard est peu connu, plus le modèle rhénan. Ludwig Erhard est un homme qui est né dans une famille de commerçants textiles, qui a fait une formation au début qui n'était pas une formation d'élite, puisqu'il avait fait un apprentissage. Il a après choisi une voie malgré tout universitaire, et il a connu tout d'abord la vie des entreprises, ce qui, je pense, est très important dans son développement. Il n'a pas fait la guerre pour des raisons de blessures antérieures, et à ce moment-là, il s'est occupé relativement tôt des modèles économiques, comment sortir d'une guerre perdue.
Dans l'entre-deux-guerres.
Dans l'entre-deux-guerres, ce qui lui a valu évidemment qu'il était plutôt mis à l'écart par le système. Et de ce fait, il a eu des contacts avec la résistance allemande, qui, elle, par contre, le recommandait à leurs amis, qui a fait qu'après la guerre, il a été relativement rapidement repéré pour être dans la discussion comment refaire l'économie allemande.
Alors, quel est le modèle qu'il a mis en place?
Alors, le modèle qu'il a mis en place, c'est en fait un modèle de 2 hommes. C'est Alfred Müller Harmack, qui était un professeur aussi d'économie, qui a créé d'ailleurs le mot de la soziale Marktwirtschaft, donc l'économie de marché social. Et Ludwig Erhard, en fait, les deux travaillaient ce concept ensemble, qui lui, nommé plus tard ministre de l'économie, a pris dans son cabinet d'ailleurs M. Alfred Müller Harmack pour devenir un de ses plus importants collaborateurs. Alors ce modèle qui naît quand même avec Ludwig Erhard aussi en tant qu'homme politique se base d'abord sur le modèle d'une économie de marché libérale, mais qui doit être entouré, qui doit être maîtrisé ou qui doit se refléter plutôt du social. C'est-à-dire l'économie doit être dans un marché libre, mais cette liberté doit être maîtrisée à partir du moment où il s'agit de donner aux hommes un cadre de vie correct et donc intégrer les éléments sociaux. Et à partir de là, en effet, l'État, dans certains cas, a le droit de s'ingérer dans la liberté habituel d'une économie de marché.
Dans quel secteur, par exemple ?
Alors, ceci est évidemment dans des secteurs de droit de travail, c'est dans des secteurs de protection sociale, tels que les retraites, tels que la sécurité sociale, et tels que les législations sur les licenciements.
Enfin, nous, ce qu'on appelle le code du travail.
Absolument. Alors, bien entendu, c'est dans ce cadre-là, il faut comprendre aussi la concertation allemande, parce qu'à partir de là, il y avait un droit dans l'économie libérale de marché, un droit de protection, et de ce fait aussi, il fallait avoir des interlocuteurs, les syndicats allemands, dont ce schéma aussi pris la place qu'ils ont tenue tant d'années pour le bien de cette économie.
Est-ce qu'aujourd'hui, les historiens ont toujours cette idée ou ça a été un peu remis en cause ?
La question est jusqu'où doit aller le social ? Ludwig a toujours dit que le social doit être financé par l'économie du marché et pas par d'autres. C'est-à-dire, il ne concevait pas de payer le social par les dettes. Il concevait que le social doit être payé par le travail et qu'il fallait toujours suffisamment de travail pour payer le social. Et déjà à son époque, il mettait en garde qu'un jour on dépasserait cette ligne rouge qui, pour lui, était fondamentale.
En exercice, il a connu aussi une période de chômage. L'Allemagne, à un moment, a eu 2 millions de chômeurs sous son ministère, on va dire. Donc, des questions qui, aujourd'hui, pourraient être presque les mêmes. Quelle était son approche par rapport à la gestion du chômage ?
Son approche était évidemment la protection sociale, c'est-à-dire quelqu'un qui est en chômage, il faut qu'il soit aidé pour qu'il puisse rester dans la société, pour qu'il ne devienne pas asocial. Mais son approche était aussi que la responsabilité du capital, je crois que c'est un important élément dans ce modèle d'économie de marché social, c'est que le capital doit prendre des responsabilités sociales. Et donc le capital a la responsabilité réelle aussi de créer des emplois et de faire tout pour. Donc on tourne toujours sur l'économie d'abord au service du social. Et cette économie, au lieu qu'elle soit complètement dirigée, qu'elle soit de marché.
Alors, on a aussi parlé de sa méthode ou de la méthode Erhard. Que reste-t-il de son action, en fait, de sa mise en œuvre ?
Je ne sais pas. Sa méthode est probablement aussi une logique, c'est-à-dire d'appliquer une logique. Cette méthode, c'est peut-être de trouver le chemin médian entre ces deux exigences initiales, garder d'un côté une économie de marché le plus libre possible et de l'autre côté de la contraindre uniquement pour des raisons en quelque sorte sociales. Mais je crois que cet équilibre est difficile et c'était sa méthode personnelle.
Que reste-t-il de son héritage politique en Allemagne aujourd'hui ?
Je crois que politique dans le sens de la chancellerie, peut-être pas tant. Konrad Adenauer l'avait vu plutôt président que chancelier. Konrad Adenauer s'est toujours opposé pour qu'il soit chancelier. Peut-être avait-il pas détecté quelque chose d'exceptionnel dans une vue d'ensemble complètement politique. Erhard avait à l'époque fait le choix de s'orienter plus vers le monde anglo-saxon avec les États-Unis parce qu'évidemment, la dynamique économique ne pouvait que l'attirer.
Et puis, il y avait le plan Marshall aussi.
Il y avait le plan Marshall. Mais
enfin, au tout début. Hein.
Le plan Marshall, il a été, notamment par lui aussi, excessivement bien géré, étant donné qu'il l'a intégré dans une banque qui par la suite a donné les prêts, ce qui a permis que le plan Marshall était en fait même disponible encore à la réunification de l'Allemagne. Non, je crois que c'était plutôt aussi une conviction. N'oublions pas qu'à l'époque, il me semble que la France avait un modèle économique plutôt étatique et dirigiste, plutôt le plan. Et ça, ce n'était pas la nature de Ludwig Erhard. Sa nature était plutôt cette liberté de marché des Américains, mais qui est, lui, encadré, évidemment, dans cette notion de social, ce que les Américains ne faisaient pas.
Ce modèle rhénan, aujourd'hui, est entré en crise. Comment est-ce qu'on le situe par rapport aux autres modèles et qu'en reste-t-il ?
Alors, je ne sais pas s'il est en crise. Il est certainement plus stabilisé qu'à d'autres époques. Disons, ce modèle, aujourd'hui, affronte d'un côté je dirais, le marché mondial, qui ne connaît pas toujours ce modèle et qui d'ailleurs n'est pas convaincu que c'est peut-être le meilleur modèle. Le capital aujourd'hui est dans le monde entier et l'Allemagne n'a plus forcément non plus un capital allemand, d'esprit allemand, donc évidemment il faut en tenir compte. La réunification a également eu une influence puisque la partie de la population est-allemande certes, avait vu ce modèle de rêve, mais l'a vu à travers un mur et le mur a beaucoup filtré un certain nombre de réalités aussi. Et il est vrai que de ce fait, ce modèle est moins évident, mais je pense qu'il est en soi toujours valable. Faut-il encore ressortir les avantages que ce modèle peut avoir par rapport à d'autres ?
Disons qu'au cœur de ce modèle, il y a quand même le couple franco-allemand. Quel est l'avenir du couple franco-allemand ?
Au niveau de l'économie, je crois qu'en effet, l'aspiration en Allemagne et en France était à la fin la même, c'est-à-dire d'avoir une économie dans laquelle le peuple vit bien. Les méthodes entre l'Allemagne et la France sont historiquement différentes et ceci crée encore aujourd'hui des différences culturelles, des problèmes quelquefois, comment on peut arriver au même but. Le franco-allemand lui-même, je pense que vit des périodes fluctuantes parce que les problèmes qui se posent aux deux peuples et aussi à l'Europe, ces problèmes sont différents à chaque fois et chaque peuple réagit à partir de sa sensibilité culturelle pour y apporter une réponse. On peut quand même constater les dernières années où chaque fois de part et d'autre, on a pensé que l'amitié franco-allemande était peut-être arrivée au sommet, à un terme, et va plutôt rétrograder. On s'est aperçu que la force des problèmes qu'il faut absolument résoudre a toujours remis les gens autour d'une table et a toujours fait qu'à la fin, il y a eu une coopération franco-allemande qui est tout à fait exceptionnelle. Et quand on regarde chaque fois quand il y avait des Adenauer et de Gaulle, au début, n'étaient pas des gens qui se comprenaient. Et à la fin, ils se sont tellement compris que Adenauer trouvait que Erhard n'était peut-être pas le bon chancelier. Erhard n'a pas eu le temps, peut-être, de comprendre cet enjeu, mais tous les chanceliers après, qui n'étaient pas forcément ou président, qui n'étaient pas forcément de la même pensée, de la même sensibilité, je dirais, se sont tous retrouvés. Ça soit d'ailleurs quelquefois les chanceliers de droite en Allemagne et de gauche en France ou vice-versa. Quand on pense à Giscard d'Estaing et Schmitt, quand on pense à Kohl et Mitterrand, ces différents binômes, je dirais, n'étaient pas forcément au début évident de s'entendre et chaque fois cette amitié franco-allemande et cette coopération franco-allemande s'est soldée par un succès.
Et aujourd'hui, dans la géographie ou la géométrie de l'Europe à 27, le centre de gravité de l'Europe, ça restera toujours ce binôme, à votre avis ? Ou il faut le transformer, l'intégrer, lui trouver une nouvelle dynamique ?
Il y a toujours eu en Allemagne un certain problème d'une relation privilégiée bilatérale. Parce que l'Allemagne a beaucoup de voisins. Et Kohl disait déjà à l'époque, comment peut-on satisfaire autant de voisins en même temps, pendant que, je crois, De Gaulle disait comment on peut diriger un pays qui a tant de sortes de fromages. Donc, chaque dirigeant a son problème. L'Allemagne a été toujours un peu sensible à ce que cette relation franco-allemande ne devienne pas tellement exclusive que les autres pays seraient qu'est du second plan. Et c'est pour cela, quelquefois, l'Allemagne a regardé aussi d'autres pays. La France, à un moment donné, l'a essayé d'ailleurs aussi avec l'Angleterre. Mais à la fin, je crois qu'il y a une évidence qui ne date pas d'aujourd'hui, qui date même de Charlemagne déjà. La France et l'Allemagne se trouvent au centre de l'Europe. Ils sont aujourd'hui les deux premières puissances économiques de l'Europe. Ils sont très souvent des moteurs de pensée sur énormément de sujets. Et de ce fait, ils sont un peu les parents de l'Europe. Mais faut-il encore que les enfants qui aujourd'hui sont aussi grands quelquefois d'eux ne se sentent pas comme des enfants, mais comme des pays tout à fait partenaires, tout à fait à la même hauteur d'eux. Et je crois qu'en effet, 26 pays, c'est plus difficile de discuter. Il faut peut-être quelquefois plus de temps. Mais je crois que dans toute cette critique de cette Europe, il ne faut quand même pas oublier d'où l'Europe vient. L'Europe vient d'hommes qui ont dit plus jamais cette guerre. Et je crois que le seul moyen pour éviter toutes ces guerres, et la preuve en est donnée, c'est justement l'Europe se construit avec tous ces pays qui appartiennent à l'Europe. Et je pense que de génération en génération, la qualité de vivre ensemble va s'améliorer tel que ça s'est fait en France avec les différentes régions ou en Allemagne avec les différentes Länder.
Merci Michael Scherpe. Je rappelle que vous êtes le président de Messe Francfort France, la filiale française de Messe Francfort créée en 2002. Il s'agit d'une holding qui est chargée de développer des grands salons d'affaires, y compris des conventions et des congrès d'affaires. Alors votre groupe s'appuie sur un réseau de filiales et de succursales ainsi que sur des représentations dans 150 points du globe. Par rapport au sujet qui vous a amené aujourd'hui à Canal Académie, rappelons la tenue le 6 décembre 2010 à l'Académie des sciences morales et politiques à l'Institut de France d'un colloque d'une demi-journée intitulé « Actualité et perspectives d'avenir du modèle rhénan, hommage à Ludwig Erhard ». Dans ce cadre, d'ailleurs, Michael Scherpe, vous participez à une table ronde animée par l'ancien président du Sénat Jean-François Poncet, qui est membre de l'Institut, avec comme participant à vos côtés ce jour-là Daniel Cohn-Bendit, député européen, Gérard Saint-Paul, journaliste grand reporter, et Georges-Henri Soutou, historien et membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Pour tout renseignement, s'adresser à l'Académie des sciences morales et politiques, dont on trouve le site sur Internet sans aucun problème.